إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، nous en sommes aujourd'hui au 19e précepte parmi les préceptes des gens de la Jahiliya qui ont été abolis par la religion de l'islam. L'auteur rahimahullah ta'ala a dit: المسألة التاسعة عشرة قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. Le 19e précepte, c'est le fait qu'ils dénigraient certaines personnes vertueuses à cause des agissements de certaines personnes s'affiliant à eux, comme le dénigrement des juifs à l'égard de Isa alayhi salam et le dénigrement des juifs et des chrétiens à l'égard de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci fait donc partie des préceptes des gens de la Jahiliya. Ils dénigraient les gens vertueux en prenant comme prétexte de ce dénigrement les agissements de certaines personnes s'affiliant à ces vertueux. Ils attribuaient donc les œuvres des suiveurs à ceux qui sont suivis, alors que ceux qui sont suivis étaient innocents de ces agissements qu'ils leur reprochaient. Et il n'y a pas de doute que ceci est une injustice évidente, comme l'ont fait ceux qui ont dénigré Moussa ou Isa alayhim assalam à cause de ceux dans quoi sont tombés les juifs et les chrétiens comme déviance dans la croyance et autres parmi leurs dérives. De la même manière, ceux qui dénigrent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à cause des agissements de certaines personnes s'affiliant à sa religion, comme les agissements de certains groupes égarés et déviants parmi les gens de l'innovation et des passions, comme les adorateurs de tombes ou encore Al-Jahmiya ou Al-Mu'tazila, ou, comme on peut le voir à notre époque, les agissements des Khawarij. Ceci est présent de nos jours. Nombreux sont ceux parmi les ennemis de la religion de l'islam qui essayent d'accoler aux gens de l'islam et à la religion de l'islam les agissements criminels et égarés qui sont commis par le groupe des Khawarij ou autres parmi les gens de l'égarement. Alors que l'islam est innocent de ces agissements, et les musulmans de manière générale, et les salafis de manière particulière, ne cessent de se désavouer de ces agissements criminels et de démontrer aux gens que ces agissements n'ont rien à voir avec la religion de l'islam. Et également, les gens de la sunna mettent en garde les gens contre les khawarij et contre l'ensemble des groupes faisant partie du groupe des khawarij. Et ce, sous toutes leurs filières, et notamment le groupe que l'on appelle aujourd'hui Al-Ikhwan Al-Muslimoun, les frères musulmans, qui ne sont d'autres qu'un groupe parmi les groupes des Khawarij, et qui sont ceux qui conduisent nombre d'œuvres terroristes et criminelles dans plusieurs pays. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de préserver nos pays ainsi que les serviteurs du mal de ces criminels. Ceci est donc la voix des gens de la mécréance depuis l'époque pré-islamique, depuis l'époque de la Jahiliya, et ce jusqu'à nos jours. Ils prennent pour argument certains agissements de certaines personnes s'affiliant à la vérité pour dénigrer les gens de la vérité. Et ceci est même présent chez certaines personnes parmi les gens du faux, parmi les gens de l'islam. Ceux qui ne trouvent pas de quoi dénigrer les gens de la sunna. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont essayer de chercher certaines erreurs, certaines paroles erronées, certains agissements incorrects qui sont commis par des personnes ignorantes qui peut-être s'affilient à la sunna. Puis ensuite, ils vont essayer d'accoler ces agissements aux gens de la sunna de manière générale. Comme on le voit notamment aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Ils vont prendre la parole d'un inconnu, une personne sortie de nulle part, qui a peut-être mis dans son pseudonyme sunna ou salafi ou autre. Ils vont faire une capture d'écran et ils vont dire: regardez les salafis comment ils agissent. Regardez comment ils se comportent. Et ainsi de suite. Ceci est la voie
des gens de la Jahiliya.
Il n'est pas permis d'affilier une erreur commise par un individu et de l'attribuer ou de la coller aux gens de l'islam ou aux gens de la sunna de manière générale. Car chacun est responsable de ses œuvres. Et cela s'oppose à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans son noble livre « Wa la taziru waziratun wizra ukhra » Personne ne portera le fardeau d'autrui. Il fait donc partie de l'injustice dans laquelle sont tombés nombre parmi les gens du faux qui dénigrent les gens de la sunna, de se servir de certaines paroles ou certains agissements, de certaines personnes et de les affilier, les attribuer aux gens de la sunna, puis de les dénigrer à cause de cela. Il se peut qu'une personne fasse objection et dise « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit « Celui qui instaure en islam une mauvaise tradition et qui est mise en pratique, c'est-à-dire qu'il est suivi dans celle-ci, alors on lui écrira le fardeau de tous ceux qui l'ont mis en pratique. » Donc quelqu'un pourrait dire « Ce hadith est une preuve que celui qui est suivi, il portera le fardeau de ses suiveurs. » Donc la réponse, tout d'abord, c'est que ce hadith est un hadith authentique. Il est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Mais le sens de ce hadith, c'est qu'il nous met en garde contre le fait d'instaurer des choses mauvaises ou de montrer l'exemple dans le mal. Donc ce qui est visé ici, c'est la personne qui appelle au mal, qui appelle à cette chose mauvaise, ou alors qui montre l'exemple dans ces choses mauvaises et qui se fait suivre dans celle-ci. Donc dans cette situation, celui qui est suivi, il portera aussi le fardeau de ses suiveurs. Pourquoi? Car c'est lui la cause de leur erreur. C'est lui la cause de leur péché. C'est lui qui les a appelés à l'égarement, ou appelés à l'innovation, ou les a appelés au péché. Toutefois, ceci n'est pas une excuse pour dénigrer les suiveurs de la vérité, les gens de l'islam, ou les gens de la sunna, à cause de certaines erreurs dans lesquelles tombent certains suiveurs et dont ceux qui sont suivis sont innocents et se désavouent. Et la différence entre les deux cas, je pense qu'elle est évidente pour tous, Inch'Allah ta'ala. On voit donc à travers cela que les gens du faux, ils sont prêts à tout et à utiliser de tout procédé, même s'ils doivent tomber dans l'injustice pour cela, afin d'écarter les gens de la vérité. Donc en résumé, on dira que le fait de dénigrer une personne à cause des agissements d'une autre personne, cela fait partie des œuvres des gens de la Jahiliya. Et comme ils sont nombreux ceux qui font cela aujourd'hui, comme ils sont nombreux ceux qui vont, par exemple, aller accuser tout un groupe de personnes, pourquoi? Parce que l'un d'entre eux a peut-être fait une erreur. Et ils vont accoler cette erreur à l'ensemble des gens qui sont proches de lui ou qui le connaissent, ou qui empruntent la même voie que lui dans certaines questions, dans certains sujets. Et ceci est une grande injustice. Et cela fait partie des œuvres des gens de la Jahiliya. Ensuite, l'auteur, il dit, rahimahullah, Al-mas'alatu al-ishroun, i'tiqaduhum fi makhariq as-sahara wa amthalihim annaha min karamati as-salihin wa nisbatuhu ila al-anbiya kama nasabuhu li Sulayman alayhi salam. Le 20e précepte, parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, c'est le fait de croire que les agissements de sorciers ou leurs semblables, parmi les choses qui sortent de l'ordinaire, font partie des prodiges des vertueux. Et ils attribuent cela au prophète, comme ils l'ont attribué à Sulayman, alayhi salam, comme on l'a vu dans le cours d'hier. Donc, les choses qui sortent de l'ordinaire, elles sont de plusieurs sortes. Les premières, c'est celles qui arrivent au prophète, alayhi salatu wassalam. Et celles-ci sont appelées des miracles, mu'jiza. Comme cela est arrivé à Moussa alayhi salam, lorsque son bâton s'est transformé en serpent. Également, comme cela est arrivé à Isa alayhi salam, lorsque par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, il guérissait celui qui était né aveugle, il guérissait le lépreux, il ressuscitait le mort. Tout ceci par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci fait partie des miracles de Isa alayhi salam. Également, comme cela est arrivé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À titre d'exemple, lors du voyage nocturne, lorsqu'il a voyagé en une seule nuit, de Mecca jusqu'à Jérusalem, au Masjid al-Aqsa, puis qu'il y a eu l'ascension dans les cieux et qu'il est revenu au matin à Mecca. Et également parmi les plus grands miracles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a le Coran, ce livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé et que toute l'humanité réunie, hommes et djinns, sont incapables jusqu'à nos jours de venir avec un livre semblable. Donc ceci est la première catégorie de choses qui sortent de l'ordinaire, c'est celles qui arrivent au prophète alayhi salat wa salam et qui sont des miracles. La deuxième catégorie, c'est celles qui arrivent aux serviteurs pieux, croyants et vertueux. Et ceux-ci se sont appelés des prodiges. Ce sont des choses par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala honore certains de ses serviteurs. Il peut faire cela pour un besoin religieux ou pour un besoin qu'on est croyant de cela, afin de raffermir leur foi par exemple, ou de leur envoyer certains signes, et ainsi de suite parmi les raisons qui sont mentionnées à ce sujet. Comme cela est arrivé à Maryam, alayhi salam. Zakaria, alayhi salam, il entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait auprès d'elle de la nourriture, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans Surat Ali Imran, alors que Maryam, elle consacrait tout son temps à l'adoration dans ce sanctuaire. Donc ceci est un prodige qui a été accordé à Maryam, alayhi salam. Également ce qui est arrivé aux gens de la caverne, qui ont dormi pendant de nombreuses années, et leurs corps sont restés intacts. Donc ceci fait partie des karamets, des prodiges, et Allah subhanahu wa ta'ala les accorde à qui il veut parmi ses serviteurs pieux, vertueux et croyants. La troisième catégorie de choses qui sortent de l'ordinaire, c'est celle qui arrive aux mécréants, et notamment aux sorciers ou aux devins, ainsi que leurs semblables. Donc ces choses-là, ce sont en réalité des agissements des démons. Et elles font partie du charlatanisme, et également de la sorcellerie et notamment les sorts d'illusion. Les démons donc, ils agissent ainsi afin de corrompre la croyance des gens et de leur nuire. Et ceci ne fait en aucun cas partie des prodiges. Comme il peut arriver à certains sorciers de voler dans les airs ou de marcher sur l'eau, alors que c'est une personne mécréante et perverse. Donc ceci, ce ne fait pas partie des prodiges qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses serviteurs pieux. Car cette personne n'est pas pieuse. Mais ceci fait partie des agissements des démons. En effet, les sorciers et les devins, ils se rapprochent des démons en accomplissant certaines œuvres relevant de la mécréance et du polythéisme afin que les démons soient à leur service. Alors ces démons, ils vont venir et vont les porter dans les airs. Et les gens vont croire qu'ils volent dans les airs. Ou alors, ils vont les faire marcher sur l'eau. Et ainsi de suite. Et plus le sorcier s'enfonce dans la mécréance, plus les démons seront à son service. Et c'est pour cela qu'on rapporte de l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala qu'il a dit « Si tu vois un homme marcher sur l'eau ou voler dans les airs, ne sois pas leurré par celui-ci, jusqu'à ce que tu exposes sa situation au livre et à la sunna. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu dois regarder cette personne. Est-ce que c'est une personne pieuse? Est-ce que c'est un croyant? Est-ce que c'est une personne dont l'apparence est la piété et la vertu? Qu'il se soumet aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'il délaisse les interdits d'Allah? Ou alors, c'est une personne perverse, qui pratique la sorcellerie, qui transgresse les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala? Alors si tel est le cas, ne sois pas leurré par cette personne. Donc ces choses-là, les sorciers les apprennent entre eux, et cela fait partie des œuvres des démons. Et il est interdit pour nous de penser que ceci fait partie des prodiges ou que c'est une chose par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les a honorés. Si tu vois une personne qui est plongée dans la mécréance, plongée dans les polythéismes, plongée dans les péchés, alors il n'y a pas de doute que si une chose qui sort de l'ordinaire lui arrive, ceci fait partie des œuvres des démons, tu ne dois donc pas être leurré par cela. Il fait donc partie des préceptes des gens de la Jahiliya qu'ils attribuaient cela au prophète, comme ils l'ont attribué à Sulayman alayhi salam, et qu'ils pensaient que ceci fait partie des choses par lesquelles le serviteur est honoré. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Al-mas'alatu al-hadiyatu wal-ishroun, ta'abbuduhum bil-muka wal-tazdiya. » Le 21e précepte, parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, c'est qu'ils vouaient le culte par les sifflements et les battements de mains. Ceci fait partie des œuvres des gens de la Jahiliya. Ils tentaient de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par les sifflements et les battements de mains. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet dans son noble livre, وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَرٍ. Et leur prière auprès de la maison, c'est-à-dire la maison sacrée, la Kaaba, n'est que sifflement et battement de mains. Donc ces œuvres, les gens de la Jahiliya pensaient qu'elles les rapprochaient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils agissaient donc ainsi auprès de la Kaaba et ils appelaient cela une prière, les sifflements et les battements de mains.
et ce car les diables, parmi les djinns et les hommes, leur avaient embelli cela, et ils se sont laissés leurrer en pensant que ceci est une manière de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'en réalité, on sait que l'adoration, elle ne peut être pratiquée que d'une manière qui a été légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'adoration, comme le mentionnent les gens de science, elle est tawqifiyya, c'est-à-dire qu'elle s'arrête au texte du Coran et de la Sunna. Et la base dans l'adoration, c'est l'interdiction, sauf si un texte vient prouver sa légitimité. C'est-à-dire que dans tes œuvres par lesquelles tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout est interdit à la base, sauf ce qui est venu dans les textes. Les hadiths te prouvent qu'une prière est légiférée, il t'est permis de faire cette prière. Les textes du Coran ou de la Sunna te prouvent que tel ou tel acte est permis, que tel ou tel jour est légiféré de jeûner, alors il t'est permis de faire cet acte. Mais si rien dans le Coran ou de la Sunna ne t'indique la légitimité de cet acte, alors la base est l'interdiction. Tu n'as pas le droit de le faire, sauf s'il y a une preuve du Coran et de la Sunna légitimant cet acte. Donc l'homme, il ne lui est pas permis d'instaurer dans la religion une chose de lui-même, un effort personnel. Il trouve une œuvre ou une parole correcte, alors il se dit « je vais me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par cette œuvre » ou de cette manière. Ceci fait partie des innovations qui sont interdites en religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith bien connu, rapporté par notre mère Aïcha radiallahu ta'ala anha, « quiconque instaure dans notre œuvre une chose qui n'en fait pas partie, alors celle-ci sera rejetée. » Et dans une autre version, « quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, alors celle-ci sera rejetée. » Et ce car l'adoration, pour être acceptée, elle doit remplir deux conditions. La première condition, c'est que tu l'accomplisses sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième condition, c'est que tu l'accomplisses conformément à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Conformément à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Si une de ces deux conditions est absente, alors l'œuvre, elle est rejetée, elle ne peut être acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui voue son œuvre à autre qu'Allah, ou en faisant de l'ostentation, ou en recherchant les compliments des gens, ou pire encore, en la vouant à une tombe ou à un mort, alors celui-ci, son œuvre, elle est rejetée. Et de la même manière, celui qui voue son œuvre sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, en dehors de tout autre que lui, mais qui accomplit une œuvre qui est contraire à ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a légiféré, alors son œuvre est rejetée. Donc on tire de ce précepte une chose importante, qui est le fait que les gens de la Jahiliya reconnaissaient l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que sa seigneurie. En effet, il lui vouait certaines œuvres, comme ses sifflements et ses battements de mains qu'il considérait comme des œuvres rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, il se rapprochait de lui par des innovations. On en déduit donc que les innovations, elles font partie des œuvres des gens de la Jahiliya. Et également, on tire de cela l'interdiction de ces deux choses mentionnées dans le verset. Les sifflements et les battements de mains. Le fait de taper des mains. Ceci n'est pas permis, même si la personne ne vise pas par cela l'adoration. Et ce car il y a en cela une similitude avec les polythéistes parmi les gens de la Jahiliya. Il est donc interdit pour la personne de siffler ou de taper des mains. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé le tapement de mains dans un seul cas. Il l'a autorisé pour les femmes, spécifiquement pour elles, en cas de besoin, comme pour avertir l'imam s'il se trompe dans sa prière. Elle tape des mains afin de l'avertir. Alors que les hommes, il ne leur est permis en aucun cas de taper des mains pour ce que cela comporte, comme similitude avec les polythéistes et similitude avec les femmes. On comprend donc de cela que si les sifflements et les battements de mains ne font pas partie des choses par lesquelles on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que dire de ceux qui font entrer des instruments de musique ou des tambours dans les mosquées et pensent que ceci fait partie de la religion et que c'est une adoration, comme l'ont fait certains parmi les confréries soufis, wal'iyadhu billah. Et c'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné le précepte suivant, parmi les préceptes de la Jahiliya, il a dit « Al-mas'alatu thaniyatu wal'ishrun, annahum ittakhadu dinahum lahwan wal'iba. » Le 22e précepte, c'est qu'ils ont pris leur religion comme distraction et amusement. Tels étaient les gens de la Jahiliya. Ce qui est visé par la distraction ici, c'est toute chose fausse qui te distrait de la vérité, qui t'en écarte. Et ce qui est visé par l'amusement, c'est le contraire de ce qui est sérieux et c'est ce qui ne comporte aucun intérêt. Donc le fait de prendre la distraction et l'amusement comme religion, comme une chose par laquelle on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci fait partie des préceptes des gens de la jahiliya, comme on l'a vu avec les sifflements et les battements de mains. Et ceci, comme on a dit, c'est présent aujourd'hui, notamment dans certaines confréries soufis. Ils prennent des doufouf, ils chantent dans les mosquées, ils dansent et sautent, et ils pensent que ceci fait partie des moyens de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de doute que la musique en elle-même et les instruments de musique, ils sont interdits en soi. Alors que dire de faire de cela un moyen de se rapprocher d'Allah, wal'iyadhu billah. Et parmi les manières également de prendre la religion comme distraction et amusement, il y a cette chose qui s'est très répandue à notre époque, et qui sont les anachides, et qui malheureusement sont appelées par certaines personnes des anachides islamiyyah, des anachides islamiques, ou des chants musulmans, wal'iyadhu billah. Et ils ont pris cela comme un moyen qui est utilisé dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala selon ce qu'ils prétendent. De la même manière, ils ont fait avec le théâtre ou la comédie. Ils pensent que ceci est un moyen d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est important de savoir que la da'wa, le prêche, l'appel à la religion, c'est une adoration. Et il n'est pas possible de pratiquer cette adoration en y introduisant des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdites, comme les instruments de musique ou autres. Et de la même manière, il n'est pas permis d'introduire dans cette adoration des choses qui font partie de la distraction et de l'amusement, comme les anachides, les comédies ou les théâtres, comme le font certaines personnes affiliées à la prédication. Tout ceci, en réalité, cela écarte les gens du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela écarte les gens de l'écoute et de la lecture du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci aujourd'hui, les anachides et autres, cela fait partie des emblèmes des groupes sectaires, comme on a dit, comme les soufis ou les frères musulmans et autres parmi les gens des passions et de l'égarement. La da'wa, l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration. Et comme toute autre adoration, elle est tawqifiyya, comme on vient de le dire. Elle se restreint aux textes, les textes du Coran et de la Sunnah. Il n'est pas permis de faire une chose sans qu'elle soit prouvée par les textes du Coran et de la Sunnah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a appelé les gens à l'islam, par quoi les a-t-il appelés à l'islam? Il les a appelés par les textes du Coran et de la Sunna. Il les a appelés à l'islam par l'exhortation, en les sermonnant, en les orientant, en leur faisant le rappel, en discutant avec eux de la meilleure manière. Il n'a pas pris comme moyen de prêche la comédie ou les anachides ou autres parmi les choses que ces gens mettent en pratique aujourd'hui. Il faut donc prendre garde à cela et se rappeler que la da'wa, cela fait partie des adorations qui, comme toute autre adoration, doit être vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et conforme à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Certains pourraient dire, oui, mais il y a des textes nous prouvant que il est rapporté dans certains hadiths que les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, récitaient des poèmes pendant les batailles ou pendant les voyages. Les gens de science ont dit, les poèmes, s'ils sont bons, si les vers de la poésie sont bons, sont des bonnes choses, qu'il y a dans ceux-ci la défense de la religion, l'explication des jugements de la religion, la réfutation des gens du faux parmi les polythéistes ou autres, ou alors que ceci a pour but de motiver la personne dans son travail ou de lui faciliter le temps de son voyage, alors ceci est une chose qui est permise et qui n'est pas semblable au anachid. La da'wa, comme on a dit, elle fait partie de la religion. Et c'est une adoration. On ne doit pas faire du prêche un moyen de distraction ou un moyen d'amusement. Mais le prêche, c'est une chose qui est sérieuse. Et il est indispensable dans le prêche de l'accomplir sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et conformément à ce qu'a légiféré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce afin que cette da'wa réussisse et qu'elle soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, rahimahullah, Al-mas'alatu thalithatu wal'ishrun, anna al-hayata al-dunya gharrathum, fadhannu anna ata' Allah minha يدل على رضاه كقولهم وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. Le 23e précepte, parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, c'est qu'ils se sont fait leurrer par la vie de ce bas monde. Ils ont pensé que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde parmi les choses de ce bas monde est une preuve de l'agrément d'Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans sa parole, وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. Et ils dirent, nous avons davantage de richesses et d'enfants et nous ne serons pas châtiés. Donc telle était la situation des gens de la Jahiliya. Ils pensaient que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde des enfants ou des biens et des richesses de ce bas monde, alors cela signifiait qu'ils avaient un rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les châtirait pas. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté cela et a montré la fausseté de cette ambiguïté. Et il a dit subhanahu wa ta'ala dans le verset qui suit celui-ci, قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Dit, mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint ses dons à qui il veut, mais la plupart des gens ne savent pas. Puis il dit subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَارِ. Ni vos biens, ni vos enfants ne vous rapprocheront à proximité de nous. C'est-à-dire qu'ils ne rapprochent pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il dit subhanahu wa ta'ala, إِلَّا مَنْ آمَنَا وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. Sauf celui qui croit et œuvre dans le bien, ceux-là auront une récompense décuplée pour ce qu'ils œuvraient, tandis qu'ils seront en sécurité aux étages supérieurs du paradis. On voit donc à travers ce verset que l'abondance des biens de ce bas monde, ou le fait d'avoir beaucoup d'enfants, ceci ne fait pas partie des choses qui rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est la foi de la personne, ses œuvres pieuses. Quant au fait d'avoir beaucoup d'argent ou beaucoup d'enfants, ou d'être riche, ceci n'est pas une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il accorde des biens de ce bas monde aux croyants et aux mécréants. Il accorde des biens de ce bas monde aux pieux et aux pervers. Il se peut même qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde des biens de ce bas monde aux mécréants afin de le conduire graduellement à sa perte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah accorde de ce bas monde à celui qui l'aime et à celui qui n'aime pas. Quant à la religion, il ne la donne qu'à celui qui l'aime. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith, si ce bas monde équivalait auprès d'Allah à l'aile d'un moustique, alors il n'aurait même pas donné une gorgée d'eau aux mécréants. Ces hadiths sont donc une preuve évidente de la fausseté de ce précepte sur lequel étaient les gens de la Jahiliya. Et il nous suffit pour cela de méditer sur la situation sur laquelle était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lui qui est le meilleur de la création. Celui qui a le rang le plus éminent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même que ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Ils subissaient la faim, ils subissaient des difficultés, ils subissaient la pauvreté. Alors qu'en parallèle, certains parmi les mécréants jouissaient des biens de ce bas monde, et ce, afin d'être conduits graduellement à leur perte. Tu ne dois donc pas penser que les biens de ce bas monde, s'ils sont accordés à une personne, cela veut dire qu'elle est noble ou qu'elle a un rang auprès d'Allah. Car la noblesse du serviteur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ses œuvres pieuses, et ce, qu'il soit riche ou pauvre. Celui qui est noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le croyant qui fait preuve de piété, qui multiplie les œuvres de bien. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, « Inna akramakum indallahi atqakum ». Certes, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux parmi vous. Donc on voit que la noblesse auprès d'Allah, c'est la piété. Ce n'est pas comme le pensent les gens, que le riche est une personne noble et que le pauvre est une personne méprisable. Ceci était la situation des gens de la Jahiliya. Ils n'ont pas jugé les choses comme il se doit. Et nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidés vers la voie droite à ce sujet et nous a permis de savoir que le plus noble auprès de lui, c'est le plus pieux. Donc celui qui recherche la noblesse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui souhaite avoir un rang éminent, il ne doit pas passer son temps à chercher à amasser les biens de ce bas monde, à chercher à avoir une bonne situation, un bon travail, beaucoup d'argent, beaucoup de maisons, beaucoup de voitures ou autres parmi les biens de ce bas monde. Mais si tu veux la noblesse, multiplie les œuvres de bien, multiplie les œuvres pieuses. Rapproche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala par les prières. Sois assidu dans tes obligations tout d'abord, puis fais-les suivre par des œuvres surérogatoires. Multiplie la prière de nuit, jeûne autant que tu peux, fais des aumônes, et ainsi de suite parmi les œuvres de bien. Ainsi, tu feras partie des nobles parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au bien de ce bas monde, tu dois te rappeler qu'ils ne sont qu'éphémères, et que lorsque tu seras dans ta tombe, seules tes œuvres resteront avec toi. Comme il est venu dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim rahimahumallah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le serviteur est enterré, trois choses le suivent, deux s'en vont, une seule reste avec lui. Sa famille, ses biens et ses œuvres le suivent, sa famille et ses biens s'en vont, et ses œuvres restent avec lui. Tu dois donc donner de l'importance à ce qui va rester avec toi dans ta tombe, à ce qui va te profiter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit « Al-mas'alatu al-rabi'atu wal-ishroun, tarku al-dukhul fil-haq, idha sabaqahum ilayhi al-du'afa, takabburan wa anafatan, fa'anzala Allah ta'ala, wa la taturudi alladhina yad'una rabbahum. » Le 24e précepte parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, c'est le fait de ne pas suivre la vérité s'ils étaient devancés par les faibles, et ce par orgueil. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sa parole, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, et ne repousse pas ceux qui implorent leur Seigneur. Donc ce précepte, il est assez proche de ce que l'on a vu dans le 8e précepte. Ainsi que le précepte suivant qu'on va lire immédiatement, il a dit, rahimahullah, الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ الْاِسْتِدْلَالُ عَلَى بُطْلَانِهِ بِسَبْقِ الضُّعَفَاءِ كَقَوْلِهِمْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَ إِلَيْهِ. Et le 25e précepte, c'est le fait qu'ils prenaient comme preuve de la fausseté de la vérité que ils avaient été devancés par les faibles dans celle-ci. Comme lorsqu'ils disaient, si c'était un bien, ils, c'est-à-dire les faibles et les pauvres, ils ne nous y auraient pas devancés. Donc ceci fait partie des préceptes de la Jahiliya. Qu'ils refusaient la vérité si celle-ci était suivie par les faibles, par les gens pauvres, les gens qui n'ont pas de rang, pas de notoriété dans la société. Donc on a déjà expliqué ce point qui est assez semblable à ce que l'on a vu dans le 8e précepte. On a vu qu'il prenait comme preuve de la fausseté d'une chose le fait d'être précédé par les faibles dans celle-ci. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet des polythéistes, لو كان خيرا ما سبقونا إليه. Si c'était un bien, il ne nous y aurait pas devancé. Donc, ceux-là, les gens de la Jahiliya, ils pensaient être des gens qui avaient de grandes connaissances, une grande expérience. Donc ils se sont dit, à partir du moment où on a vu ce avec quoi est venu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ceci n'est pas la vérité et que nous l'avons délaissé. Donc, le fait que nous l'avons délaissé, ceci est une preuve que ce avec quoi il est venu n'est pas la vérité. Car si c'était la vérité, nous nous serions empressés de le suivre. C'est ainsi qu'ils réfléchissaient. Et il n'y a pas de doute que ceci fait partie des plus grandes faussetés. Car la vérité, son suivi n'est pas limité à une classe sociale parmi les gens. Mais le suivi de la vérité, c'est une grâce dont Allah subhanahu wa ta'ala fait don à qui il veut parmi ses serviteurs. Il n'est donc pas permis de prendre pour preuve de la véracité d'une chose qu'elle est suivie par les gens riches, ou les gens à la grande notoriété, ou les gens qui ont un rang social. Et de la même manière, il n'est pas permis de prendre pour preuve de la fausseté d'une chose qu'elle est suivie par les gens faibles ou les gens pauvres. Car ceci fait partie des préceptes des gens de la Jahiliya. Il n'est pas permis pour nous de prendre ceci comme un moyen de distinguer entre le faux et la vérité. Mais comme l'ont dit les savants, la vérité, elle n'est pas reconnue par les hommes, mais ce sont les hommes qui sont reconnus par la vérité, c'est-à-dire par le Coran et la Sunna. Notre repère par lequel on distingue le faux de la vérité, ce sont les textes du Coran, les textes de la Sunna authentique, et ce sur quoi il y a unanimité entre les gens de science. On va donc pas plus développer ce point, car on l'a déjà vu lors de l'explication du 8e précepte, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On se retrouve lundi prochain pour la suite de la lecture de cet ouvrage. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakum Allahu khayra.